Nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Barthas.
En direct.
Sur le 107 FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107, nous sommes le lundi 16 octobre, il est 8h30. Au programme de cette matinale, nous étions à la pompe pour l'inauguration de leurs nouveaux locaux, c'était samedi, et Arthur nous en fait la visite guidée dans un instant. Et en deuxième partie d'émission, Léo lui est allé à l'événement Les Toqués du CEP, c'était le week-end dernier, et il nous emmène en balade. Il y aura de la musique comme d'hab, et on commence par les tours, vous êtes bien sur Barthas.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas. Dans un monde anxiogène et morose, ça fait du bien de voir aussi que des projets se réalisent. Quand je vois l'embuscaf, projet de Cine ou encore toute la bande de la Madeleine, je me dis franchement c'est cool et ça fait du bien. Et bah la pompe, dont vous allez faire la visite de leurs nouveaux locaux radiophoniquement dans un instant, c'est pareil. Un mec a dit il y a quelques années que si à 50 ans on n'avait pas de Rolex, on n'avait pas réussi sa vie. Et évidemment, c'est faux. Pas besoin de montre pour être à l'heure avec son avenir, pour construire des projets et faire de belles choses. Quant à nous ici à Barthas, ce sera toujours avec une immense joie que nous les relayerons, que nous en parlerons. Puisque notre boulot, c'est sûr, ce sera toujours de faire des ponts et jamais des murs. Ça tombe bien, là, tout commence à côté d'un pont en fer, ici, à Florac. Ben voilà, on y est, salut Arthur.
Salut Ben.
On est donc dans vos nouveaux locaux.
Oui, exactement.
Pour commencer... le dictionnaire des synonymes s'est agrandi. Parce que la pompe, il y avait choses, rôle, chaussures. J'ai rajouté abnégation, volonté et persévérance.
Il y a un peu de ça, ouais, peut-être. Oui, je pense, merci, c'est bien résumé. Ouais, il y a eu, je pense, pas mal de persévérance, parce que au final, ça a été notre premier lieu, l'appartement du pompiste, comme on l'appelait. Et là, on est descendu d'un étage, mais on est monté sur un autre niveau, et ça fait du bien de voir là le lieu, de voir tous ces gens là qui sont là aujourd'hui. Il est 16h à peine, et c'est déjà bien plein, donc c'est qu'il y avait de l'attente aussi sur ce projet.
Tu vas emmener faire un tour dans votre local, hein. Vraiment que moi je suis trop content que vous soyez là. Rappel pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, d'où est partie l'idée, c'est quoi la pompe?
Ben en fait la pompe c'est vraiment, à la base c'est parti de l'idée avec Robin, on avait un projet de bibliothèque, de fabriquer une bibliothèque, on s'est dit tiens faut qu'on se trouve un atelier. On n'a pas trouvé d'atelier, mais on a trouvé des copains qui faisaient de la sérigraphie, qui eux aussi cherchaient un atelier. Puis Thibaut, qui était plus dans le web, qui cherchait aussi un espace de travail. Puis Marc et Mary, qui eux cherchaient un espace pour faire du café. Et en fait, on a mis tout ce petit monde comme des satellites autour de la pompe, là, à gravité. Et on a cherché. Ça nous a pris presque 5 ans, 4 ans réellement. On est passé de lieu en lieu. Et au final, on est revenu sur le lieu de base, c'est-à-dire... le bâtiment du pont en fer, et nous y voilà aujourd'hui.
Alors il va s'appeler la pompe ou vous allez lui donner un petit nom charmant
Pour l'instant c'est la pompe, et on en a pas mal discuté avec tout le monde, avec la maison du vélo, avec la Berlu, avec Ankou, les torréfacteurs et le CA de la pompe, de se dire bon bah pour l'instant c'est la pompe. Et peut-être qu'un jour s'il y a un nom qui vient, il faudra qu'il vienne du lieu et pas de nous.
Le pont en fer, une petite cour là où il y a bien de l'animation, etc. Et puis là, on prend la première porte, là où c'était, alors pour que les gens s'imaginent un peu l'ancienne maison de la presse telle qu'on pouvait l'imaginer. On vient de rentrer, qu'est-ce qu'on y trouve? Fais-nous une petite photo radiophonique de ce qu'on voit.
Alors actuellement on y voit le café de la pompe, qui est un café multiservice où on aura le café, l'espace de télétravail, coworking et un petit rayon papeterie qu'on va essayer de développer. L'idée c'est vraiment d'avoir des services qui ne sont pas sur Florac et que le café puisse absorber ces services-là. Et en face de nous on a la maison du vélo. Alors ça ne va pas rester tel quel parce que l'image radiophonique que vous avez aujourd'hui, c'est pas l'image qu'il y aura après. après les travaux, parce qu'en fait on va attaquer des travaux en novembre, et donc ici en face se situera la Berlu, la librairie de Florac, et donc on sera en lien proche entre la librairie et le café pour acheter un bouquin et pouvoir boire un petit café en direct.
On avance un peu ?
On avance carrément.
Le rêve commence.
Donc là voilà, on est actuellement dans les locaux de la Maison du Vélo, donc Maison du Vélo qui est une association floracoise qui fait de la réparation, de l'autoréparation, de l'électrification de vélos et de la vente et de la location. Voilà, avec Laure qui est technicienne vélo, en train de discuter avec quelques membres du CA de l'asso.
Qu'on a reçu à la journée des assos qu'on devait faire en direct ici, et malheureusement un gros problème technique nous a empêché de le faire. Ce n'est que partie remise, parce que le lieu est propice à des plateaux radio. Qu'est-ce que t'en penses ?
Carrément, mais avec grand plaisir, et on remet ça quand vous voulez. C'est vrai que ça aurait été beau et chouette d'avoir ce petit live en direct avec tout le monde autour, mais on va en trouver d'autres. On est là pour au moins 15 ans, parce que on a signé un bail de 15 ans là, avec Village Vivant, qui est la foncière qui a acheté le bâtiment. Bon, ça, on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Mais voilà, en fait, c'est une foncière qui n'investit que dans des projets un peu similaires à la pompe, des tiers-lieux, des auberges alternatives, ce genre de choses. Et eux ont réussi à lever les fonds pour l'achat de ce bâtiment et une partie de participation sur les travaux aussi qui vont, comme je le disais, se dérouler là sur tout l'hiver pour... On espère, au printemps 2024, avoir un lieu presque fini, qui sera pas fini, parce que comme on dit en Lozère, à maison finie, maître foutu, donc on va pas finir ça de sitôt.
Alors là, je vois juste sur ma gauche, il y a une petite porte, c'était marqué direction avant, ce qui m'a fait beaucoup rire, parce que Thomas, qui travaille à la Comcom, qui fait partie de notre conseil d'administration, quand je suis venu la première fois que j'ai vu direction et qui bossait à l'intérieur, ça m'a beaucoup fait rire. Là, il y a une petite rosace, qu'est-ce que c'est que cette rosace ?
Alors, en vrai, c'est les coordinatrices qui ont mis cette rosace pour cacher le petit panneau direction en dessous.
Parce qu'il n'y a pas de direction.
Non, il n'y a pas de direction. En fait, là, effectivement, il y a une petite porte, c'est le bureau pour l'instant des coordinatrices. Plus tard, en fait, cette cloison va être cassée, on va la faire tomber, et vraiment ici, on retrouvera le comptoir du café avec en face là, cette fenêtre qui sera transformée en porte et qui deviendra l'entrée du café. Donc là, on sera vraiment dans la zone café, télétravail, avec un café sans alcool, donc du café qui vient du torréfacteur juste en face, donc on ira après, mais ça sera l'atelier de torréfaction de Hankou, et donc on servira leur café, des jus pressés, voilà, après les autres services du café, donc l'impression, les photocopies, le télétravail et la papeterie, comme je disais.
Et alors, il y a aussi un truc que nous disait Laure de la Maison du Vélo, lumière naturelle aussi, c'est-à-dire que c'est cool parce que là, vraiment, il y a de la lumière, quoi.
Oui. Ouais, on est. C'est vrai qu'avec l'ancien local de Biojour, on était sur l'avenue Jean Monestier, là on était dans une petite grotte, c'est vrai. Et là, oui, on a un bâtiment lumineux, des grands volumes. En comptant l'appartement, donc l'appartement on le récupérera dans un an et demi, voilà, quand on pourra. Et du coup, avec l'appartement, on a quasiment 500 mètres carrés de bâti, plus deux fois 200 mètres carrés de cours. Donc il y a de quoi rêver.
Alors, on continue un peu. Là, donc, on est dans un espace absolument incroyable. Donc, c'est quoi ? C'est un entrepôt ? À quoi ça va vous servir ? Donc là, on est vraiment dans le fond de la cour. C'est en ébullition. Je vois un tournoi de Mario Kart là-bas, absolument génial. À quoi ça va vous servir un peu tout ça ? Qu'est-ce qui va se passer ici ?
Et bien alors, en fait, ça, c'est vraiment la première phase de travaux qui va avoir lieu cet hiver. C'est l'isolation de cet espace-là. Et en fait, dans le hangar du fond, c'est là où la Maison du Vélo aura sa boutique, son atelier. Et l'autre partie, donc le hangar sera en gros coupé en deux. Il y aura une partie côté est où il y aura la Maison du Vélo, et la partie ouest du hangar, ça sera l'atelier art graphique, donc où on mêlera la sérigraphie, la presse typo, et on espère ramener la grosse Bertha, comme on l'appelle, c'est-à-dire une presse Heidelberg des années 50, qui est une presse typo de 1,2 tonnes de fonte. Et voilà, et après, là, quand on continue un peu au fond du hangar, on arrive dans un petit espace isolé qui sera les bureaux des ateliers art graphiques, où du coup, on aura un espace partagé de bureaux à destination des résidents du lieu.
C'est dingue, parce que quand on... je crois que ton rêve a commencé, enfin votre rêve avec Romain évidemment, mais et puis après, avec toute l'équipe. À l'époque quand on en parlait, vous rêviez de ça. Ça fait quoi émotionnellement ce qui t'arrive là quand tu m'en parles, enfin, comment on se sent quand on réalise un rêve?
Ben c'est particulier. Ben, là il se réalise bien en plus, donc oui, c'est beaucoup d'émotions et ça fait du bien. C'est le début d'une belle aventure, je pense. Et ouais, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien de voir ça, de voir que ben, en fait, quand on a vraiment envie et au plus profond de son cœur, sûrement qu'on peut arriver à débloquer les choses. Là, on a eu de la chance aussi. Il y a eu de la chance qu'il y ait Village Vivant qui réponde positivement à cet appel à l'aide un peu. Mais voilà, on a su se battre et on a su s'entourer les uns les autres et se porter. Et voilà, mais c'est la beauté du collectif aussi.
Et puis, gageons aussi que vous avez toujours été soutenu par les collectivités aussi, parce que c'était quelque chose d'important. D'ailleurs, le monde qui est présent aujourd'hui, ce sera encore mieux ce soir, prouve que ce genre de lieu est ultra important pour un petit bourg comme Florac.
Oui, effectivement. De la part des gens, on a des retours depuis 5 ans où il y a une attente, vraiment. Et en même temps, c'est drôle parce que les gens se demandent toujours et se demandent encore, c'est quoi la pompe? Ouais. Et qu'est-ce qu'on y fait? Et du coup, bah voilà, là, ça va permettre de concrétiser les choses parce que c'est sûr qu'on a été, comme je disais la dernière fois, un tiers-lieu sans adresse. Et que du coup, bah, voilà, on pouvait pas développer les activités qu'on avait envie de voir émerger. Mais là, aujourd'hui, c'est le cas et on a tout le temps pour le faire. Donc, et c'est l'adaptabilité et ça le restera, en fait. Le maître mot, c'est vraiment ça, adaptabilité. C'est-à-dire de se dire, si demain, la sérigraphie ou le café, ça marche pas, c'est pas grave, on a un lieu, on y met autre chose et on a une belle boîte et l'important c'est ce qu'il y a dans la boîte.
On continue la visite, on va dehors, là il y a une porte, moi j'aime bien les portes qui mènent dehors des fois des lieux. Alors faut bien dire que là pour l'instant vous allez laisser, c'est un peu en bois tout ça, est-ce que vous allez garder ou alors est-ce que l'isolation va dire que...
Bah, ça va être refait parce qu'effectivement, comme je disais, on va isoler. Du coup, il faut qu'on enlève ce parement bois là qu'il y a actuellement, qu'on va remettre derrière. On remettra sûrement de l'OSB parce que ça sera plus adapté à un espace d'atelier. Et donc, en traversant ce hangar qui est un beau hangar en béton, on arrive dans une seconde cour, là où on se trouve actuellement, qui est une cour un peu plus cachée, où là aussi, y a des petits rêves qui se font. L'idée, c'est de se dire que cette seconde cour, ça soit plus la cour des artisans. Donc on va y créer des îlots, soit avec des conteneurs ou des caravanes ou des cabanes ou je ne sais quoi, et que à chaque fois qu'on rajoute un îlot, on rajoute une compétence, c'est-à-dire demain un îlot couture, puis un îlot gravure, puis un îlot maroquinerie, enfin voilà, j'imagine, mais et que en fait petit à petit on puisse développer un petit village d'indiens artisans là dans cette deuxième cour, qui du coup donne sur le hangar Tollé, et ce hangar Tollé qui sera lui aussi isolé, mais donc ça on va prendre plus le temps sûrement dans 2 ou 3 ans et c'est là où on retrouvera le Fab Lab et l'atelier, la menuiserie.
Ah oui, il y a encore de quoi faire, dis donc.
Ouais, là on a à peu près 100 mètres carrés de plus, donc on va isoler et où il y aura la menuiserie partagée. Donc l'idée c'est d'avoir des professionnels résidents du lieu, donc entre l'art graphique et la menuiserie, l'idée c'est d'avoir entre 7 et 8 résidents qui puissent venir travailler tous les jours sur leur projet pro ou perso. Mais après aussi l'idée c'est de pouvoir ouvrir au grand public, aux particuliers passionnés et sur des tranches horaires, soit le week-end, soit en soirée, que la menuiserie puisse être libre d'accès pour un ou une qui souhaiterait se faire une table basse, par exemple, pour chez lui.
On va faire une petite pause musicale. T'as envie d'écouter quoi, tiens?
Eh bien, écoute, là, on a Chambre à Air qui jouait, mais bon, c'est un live piano-violoncelle. Mais sinon, je crois que j'ai une petite envie de hip-hop, là.
Ah, on va se trouver ça. On fait une petite pause, histoire que change les piles, et puis on se retrouve dans un instant pour continuer la visite de ce lieu qui est absolument incroyable.
Pas rester une piste. J'ai vu trop de trucs atroces, la tête coincée dans la matrice. Dans le trou, pas d'actrice. glisse. Mon âme est pleine de cicatrices. Tes paupières se plissent, énergie vocifératrice. Le crew te fait des croches, pas coûte, ça va trop vite. Ça c'est ma nouvelle stup attaque altruiste anti-médiati. Le truc est bandé comme un arc tendu comme une catapulte. T'écoutes le groupe culte qui refuse le monde adulte.
On est le flip-flip-roux, terroriste bienveillant. Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller. Car nous sommes l'understup,
la ligue anti-réactionnaire.
La stup persévère, stoppera les guerres sur la terre.
On est le flip-flip-roux, terroriste bienveillant.
Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller.
Car nous sommes l'understup,
la ligue anti-réactionnaire.
La stup persévère, stoppera les guerres sur la terre.
Y'a des gens qui pensent que l'être humain il est mauvais, qu'il est méchant, qu'il changera jamais, bref qu'il est mauvais. Si les gens pensent ça, on va droit vers la guerre.
Et si on va droit vers la guerre,
y'a plus qu'à faire ses prières. Alors pense pas ça, pense pas que l'homme est mauvais. Il est bon comme moi, à part quand j'étais enfant. On décapitait les mouches, torturait les fourmis. Oui, je me vengeais sur ceux qui étaient plus petits.
On est le flip flip crew, terroriste bienveillant. Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller.
Car nous sommes l'understup,
la ligue anti-réactionnaire.
Le stup persévère, stoppera les guerres sur la terre.
On est le flip flip crew, terroriste bienveillant.
Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller.
Car nous sommes l'understup,
la ligue anti-réactionnaire.
Le stup persévère, stoppera les guerres sur la terre.
Les petits cris au secours, la peur pète le sort. Où qu'il est dans cet amour qui pourrait mettre tout le monde d'accord. Faut que tu t'encarres, trip à mort. Ma clique a vraiment trop de cœur. Je check les bisounours, un cocard pour les prédateurs. Tes rêves se barrent en saucisse, faudrait que ça cesse. Ouvrir le vasistas, tu ronges ton os. Pense qu'à tes fesses seul dans la populace. Le businessman crame, prêt à tout pour de l'oseille. Le king prend le chrome, réveille le bon gars qui sommeille.
On est le flip flip crew, terroriste bienveillant. Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller.
Car nous sommes l'understup,
la ligue anti-réactionnaire.
La stup persévère, stoppera les guerres sur la terre.
On est le flip flip crew, terroriste bienveillant.
Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller.
Car nous sommes l'understup,
la ligue anti-réactionnaire.
Voilà, Stupéflip, ça fait pas de mal. Hein.
Ah bah ouais, ça fait du bien, ouais. Un peu de hargne comme ça, là.
Donc là, on vient du hangar en tôle, on repasse par le hangar. Là, on va donc se diriger vers ce qui est actuellement le bar.
Oui.
On fera une pause tout à l'heure.
Oui,
au bar.
Oui, bien sûr.
Donc là, on revient dans la cour. Il y a un petit concert, là, violoncelle dont tu parlais, violoncelle-piano, voilà. Et on va rentrer dans une petite pièce sur le côté. Tu vas nous expliquer ce que ça va être.
Effectivement. Et donc là, on est dans une salle qui aujourd'hui accueille l'exposition des œuvres qui seront ce soir vendues aux enchères. Donc on fait une vente aux enchères en soutien à la pompe. Et je pense qu'on peut encore une fois et mille fois remercier tous les artistes qui ont participé à cette... qui nous ont fait ces dons. On a 28 œuvres d'art qui ont été données. Et c'est pas des fonds de tiroir, ça je tiens à le dire, parce que c'est vraiment magnifique. Enfin, l'ensemble des œuvres sont assez incroyables. Et j'ai cru entendre hier soir à la Madeleine que les gens attendaient et allaient se battre pour gagner ce qu'ils ont dans le cœur.
Alors on mettra la liste de tous les artistes qui ont participé, parce que je pense que je sais pas si tu as toute la liste. Alors si tu peux tous les citer, allons-y.
Alors non, je l'aurai pas en tête. Du coup, je vous la ferai passer à Bartas et on vous fera la liste de tous ces gentils donateurs et gentilles donatrices. Et du coup, voilà, on est actuellement dans cette salle où on expose les œuvres qui, à partir de décembre-janvier, va aussi accueillir des travaux. Et c'est là où on verra. Et où on pourra sentir le bon café des torréfacteurs Hanko, qui auront leur atelier de torréfaction ici. Du coup, le café sera torréfié sur place et il n'aura qu'à faire 15 mètres pour être coulé dans la cafetière.
Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller.
C'est ça, en fait, d'un rêve que t'avais, que vous aviez avec Robin, en fait, au final, en découle l'univers des rêves qui vont en découler sont infinies quasiment.
Et oui, oui, carrément. C'était, c'est du rêve commun. Donc c'est, on prend un rêve et on y colle un autre rêve et un autre rêve et un autre rêve et on a un collage, un patchwork des rêves des uns et des autres. Et c'est l'idée de ce lieu, c'est de se dire, maintenant on a une place et on y fait ce qu'on veut.
J'ai peut-être une question peut-être bizarre, je sais pas, j'en sais rien. Est-ce que tu as des craintes pour l'avenir en fait ? Parce que là, on a parlé que du positif, etc. Est-ce qu'il y a quand même des trucs qui te font flipper après toutes ces années où justement tu as créé ce projet
Le projet en lui-même, ouais, il c'est flippant. Parce que pour l'instant, on l'a que rêvé. Donc le rêve, tu peux pas te planter dans un rêve. Au pire, tu te réveilles. Mais là, ouais, on est dans du concret. Et mine de rien, on a un loyer à payer. On a des salariés à payer. Vraiment, moi, mes seules craintes, c'est ça, c'est sur le côté économique. Parce que c'est le seul endroit où on peut se planter. Des gens, il y en aura. Des envies, il y en aura. Et là, oui, le seul truc, ça serait que demain, le lieu tourne pas assez. Qu'on n'arrive pas à faire rentrer l'argent comme il faudrait. Parce qu'il y aura une charge de loyer qui au final sera autour de 3000 euros quand même mensuel, donc il faut arriver à rentrer ça. Après, comme tu le disais tout à l'heure, là aujourd'hui on a un soutien vraiment incroyable de la commune de Florac, donc au niveau financier c'est à son échelle, hein, la commune de Florac peut pas aller très très haut, mais en tout cas il y a le soutien humain, et pour le moment on a eu besoin de ça, et maintenant on espère que la région, la commune comme le département vont suivre aussi, et je pense que là aujourd'hui le fait qu'on puisse montrer ce qu'on fait, ça peut aller que dans le bon sens. Mais pour revenir à la question, effectivement, moi, mes seules craintes, c'est sur le côté vraiment purement économique, de se dire, demain, on n'arrive plus à payer, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors justement, parlons-en. Le modèle économique que vous avez imaginé, c'est quoi ? Sachant que, de toute façon, un modèle économique n'est jamais figé, en fait. Nous, on le voit à Bartas, il évolue tout le temps, en fait. Comment vous l'avez, pour l'instant, envisagé ? À moyen terme, on va dire.
En gros, sur 3 ans, clairement, là, on a besoin de soutien financier, de subventions, à hauteur de 40-50% du projet. Mais vraiment, l'idée sur le modèle économique, c'est de se détacher des subventions au maximum, parce que on ne sait pas de quoi l'avenir est fait là-dessus, que ça va plutôt en s'amenuisant, les subventions, et que du coup, on a projeté le modèle où vraiment, et c'est là où on a l'idée du café et de la guinguette. Donc la guinguette, j'en ai pas parlé, mais c'est l'idée, en fait, de développer une guinguette de mai à octobre sur la cour, dont on se retrouve actuellement, là, dans cette cour, et de mai à octobre, d'avoir une guinguette, et où, clairement, la guinguette et le café, on essaie de faire rentrer des sous avec ça, et économiquement, la guinguette et le café deviennent une béquille pour le reste, où on peut là du coup expérimenter sur les ateliers, sur la sérigraphie et sur les événements, les espaces à créer dans le futur.
Et on va finir sur on a parlé des rêves, etc. Mais est-ce que au-delà de ça, plus que ça, qu'est-ce qui te fait rêver de faire rentrer dans ce lieu où tu te dis, pour l'instant, c'est pas possible?
La projection qu'il y aurait, c'est de se dire, maintenant qu'on a un lieu, on s'installe bien dans ce lieu, et ensuite, comment est-ce qu'on arrive à sortir du lieu? Et c'est-à-dire d'être hors les murs aussi, et de pas non plus se coltiner à 4 murs, et où on reste dans notre tiers-lieu, et on va pas voir les autres, et de se dire, comment est-ce que demain, on peut sortir hors les murs? Comment est-ce que demain, on peut aller dans Florac? Comment est-ce que demain, on peut revitaliser les espaces perdus des anciens commerces, etc.? Est-ce que nous, on a un rôle à jouer là-dedans? Sûrement d'accompagnement au moins, mais peut-être d'investissement dans quelques années, et de se dire, comment est-ce qu'on arrive à créer d'autres espaces, et qu'en fait la pompe puisse créer des arborescences et aller toucher un peu les autres communes, la commune elle-même de Florac et le territoire dans son ensemble, quoi. Et de surtout aussi lier avec les autres lieux existants ou qui vont exister dans l'avenir, que ce soit la Tisoire à Mende, la Fabulerie dans les Cévennes, le projet d'Ecohamo qu'il y a sur le Causse, où il y a un réseau qui existe, qui est seulement à consolider, et pour qu'on aille encore plus loin tous ensemble, quoi.
La notion de partage et de partage de connaissances et de liens sur notre territoire qui est super important. Les infos pratiques, est-ce que vous avez déjà défini des horaires, etc., sur lesquels c'est ouvert, tout ça, c'est sur le papier?
Oui, alors on garde pour l'instant les mêmes horaires qu'avant, donc c'est-à-dire on est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h. des fois un peu plus en fonction que si un résident reste ou quoi. Mais voilà, le café, le côté télétravail, on est vraiment voilà, de 9h à 17h, du lundi au vendredi, où les gens peuvent venir sur le café. Et après, il y a les horaires de la maison du vélo que les gens peuvent retrouver sur leur site internet, sur leur page Facebook. Et après, voilà, comme je disais, à partir de janvier-février, les torréfacteurs s'installeront. Et sûrement février-mars, la librairie s'installera une fois qu'on aura terminé l'ensemble des travaux.
Bravo Arthur, bravo à toute l'équipe. Et puis, tu viens quand tu veux sur nos ondes pour discuter encore de ce projet que je trouve fabuleux. Merci beaucoup.
Bah merci Ben, merci Bartas. Et pareil, hein, la cour est ouverte pour de futurs lives en extérieur.
Ah, tu m'étonnes, on n'y manquera pas. Tiens, on se quitte avec un peu de jazz, hein, ça fait pas de mal ça.
Alors oui, il fallait aller le chercher, hein, il s'appelle Chambre à Air. Alors La Pompe et Chambre à Air, voilà. Mais c'est des copains de Montpellier qui sont venus jouer. Et ouais, un peu de jazz comme ça, avec plaisir.
Merci Ben.
Merci à toi.
Léo était à une cueillette de champignons accompagné par un mycologue. C'était à l'événement Les Toquets du Cep. Eh ben allez, on vient se balader avec toi Léo.
À l'occasion de la fête des Toquets du Cep à Mende, je suis parti en balade accompagné d'un mycologue dans les forêts de Charpal. C'était pour une cueillette de champignons, mais surtout pour en apprendre plus sur le sujet. Ce mycologue, c'est Yannick Mourgue, président de l'Assaut mycologique de Lozère de la Haute-Vallée d'Olt.
Je suis mycologue depuis mon plus jeune âge, j'ai commencé avec mon grand-père à ramasser les champignons comestibles, puis je suis rentré dans une association mycologique à Aix-en-Provence, à Lama, dans laquelle j'ai rencontré de grands mycologues qui m'ont aidé à progresser dans mes connaissances, et puis petit à petit, je me suis mis à acheter des livres spécialisés, des monographies, du matériel pour faire de la microscopie, et j'ai progressé comme ça, jusqu'à devenir le mycologue que je suis aujourd'hui. Voilà, donc maintenant, avec le niveau que j'ai, j'accompagne des gens dans les forêts, j'organise des sorties, je participe à des inventaires menés par l'ONF ou d'autres organismes, etc.
Et alors, est-ce qu'on ramasse que les cèpes ou on ramasse tout pour les identifier?
Vous ramassez que les cèpes, et puis s'il y a un champignon en particulier qui vous intéresse, que vous voulez, sur lequel vous voulez avoir des explications, vous le ramassez. Et bien voilà, votre premier cèpe.
C'est vrai?
Ouais. Bon, c'est caractéristique du boletus et du lys. Oui, c'est ça.
Et celui-ci, alors, c'est, vous dites un bolet?
Oui, le cèpe. Boletus et du lys.
Et c'est le cèpe.
C'est le cèpe.
Celui-là, il est joli.
Attendez, je le regarde deux secondes.
J'ai mal coupé en plus.
On le reconnaît au petit liseré blanc.
D'accord.
Qu'il y a sur la marge. Là.
Ok.
Voilà. Il y a un autre champignon qui ressemble beaucoup à ça. Quand on voit juste le chapeau, c'est une russule. Qui a exactement les couleurs fauves identiques à ça, mais qui a des lames dessous.
Et ça, c'est un champignon qui a quoi, quelques jours? Ça grossit très vite.
Celui-là, il a un ou deux jours.
Ah oui, ça pousse très vite, hein, quand
ça
même.
Ça pousse très vite, oui.
Et le fait de trouver un champignon, est-ce que dans un environnement, ça ne veut rien dire, en fait? C'est pas parce qu'il y en a un, il y a un cèpe, par exemple, qu'il va y en avoir autour?
Non, pas forcément.
Voilà, c'est
non.
Pas...
Ouais, ramasse-le. Alors, il a des tons orangés, il peut devenir gros comme ça. Et c'est ce que souvent les gens confondent avec la girole.
S'il ressemble pas trop, c'est trop rond.
Ouais, mais quand il est
grand.
Plus âgé, il peut y faire penser. Souvent les gens ramassent ça en disant « Ah, j'ai trouvé des tonnes de girole » et en fait ils ont ramassé ce truc-là, qui s'appelle Hygrophoropsis aurantiaca. C'est la fausse girole en fait. Le nom vernaculaire, c'est fausse girole.
Et ça reste comestible?
Tellement de gens qui confondent la girole avec ça et qui les mangent et on n'a pas eu de retour, c'est que ça doit être comestible.
Okay.
Parce qu'en fait, sur les champignons, on sait très peu de choses. Il y a en France entre 30 000 et 40 000 espèces de champignons. On en connaît une vingtaine qui sont mortels, on en connaît quelques-uns qui sont toxiques, on en connaît une dizaine qui sont comestibles, et puis le reste, c'est point d'interrogation. Après, il y a des gens qui mangent tout et n'importe quoi. Ça, on n'a jamais eu de retour, ça n'a jamais causé d'intoxication, donc on suppose que c'est...
Ça demande des études, mycologue ?
Il y a un DU qui existe, un diplôme universitaire niveau licence, qui est dispensé à l'université de Lyon et puis à Lille, mais c'est tout. C'est tout. Après, c'est surtout l'affaire d'amateurs dans des associations mycologiques. Et puis après, c'est de la formation personnelle. Quoi. Il faut acheter des bouquins. Donc moi, j'ai commencé avec mes grands-parents à chercher les comestibles. puis après, je me suis mis dans une association mycologique avec Aix-en-Provence, parce que j'étais là-bas à l'époque. Puis là, j'ai rencontré des grands mycologues qui m'ont appris plein de choses. J'ai fait beaucoup de sorties avec eux. Puis après, on achète de la littérature spécialisée. Et on progresse comme ça, petit à petit. Hein. Bon, après, dans les monocultures d'épicéa, tiens, ça, c'est pas un mustélina qui a été arraché, justement, celui dont je parlais tout à l'heure. Voilà, exactement. Russul. Quand on la voit de dessus, souvent le chapeau est bombé. Mmh. On a l'impression que c'est un cèpe. Et en fait, quand on la ramasse, non, c'est une russule. Mustélina avec les couleurs fauves et surtout un chapeau qui est extrêmement dur. C'est ça qu'on le reconnaissait hyper courant ici, il y en a partout. Et puis russule parce que avec les lactaires, c'est le seul groupe de champignons qui a la caractéristique d'avoir un pied avec des cellules rondes. Okay. Donc si tu veux, ça confère cette propriété, c'est que quand tu tords le pied, il se casse comme de la craie. Je claque, alors que les autres sont fibreux, parce que les ifs sont allongés, les cellules sont allongées. Alors que là, elles sont rondes et ça casse tout seul.
Et on va trouver des champignons précis parce qu'on est dans une forêt d'épicéas.
Non, il n'y a pas vraiment de champignons spécifiques à l'épicéa. Il y a un fond commun que tu vas retrouver un peu partout. Après, ce genre de monoculture, ça reste quand même relativement pauvre. Ouais, en champignons, il n'y a pas une très grande diversité. Puis le sol, ouais, tu sens qu'il a été travaillé par les engins. Alors, ce qui est bien maintenant, c'est qu'il laisse le bois mort au sol. Il ne nettoie plus comme il faisait avant. Du coup, ça amène un peu de biodiversité.
Et si un jour on veut aller chercher le champignon, le mieux c'est d'aller dans une forêt spécifique.
Bah, ça dépend ce que tu cherches.
Pour du cèpe, par exemple.
Ouais, du cèpe. Une forêt de conifères avec quelques chênes, c'est pas mal. J'ai un mélange de pin, de chêne et de sapin, et donc c'est assez favorable. Après le cèpe, dans ces forêts-là, on en trouve aussi beaucoup.
Je croyais que c'était un pied de mouton.
Non, pied de mouton, c'est jaune.
Ah, c'est jaune, merci.
Le pied de mouton est bien jaune.
Oui, jaune-orangé. Ouais. Ça doit avoir les lames roses. On a des reflets roses parce qu'en fait, ce champignon va avoir une sporée de couleur rose. Et donc, c'est un clitopile. Et les clitopiles sont comestibles. Tu vois ? Donc ça, c'est comestible, mais attention, il ne faut pas le confondre. Il ne faut pas se faire avoir parce que tu peux avoir des antholomes qui ressemblent beaucoup à ça. Tu peux avoir des clitocybes aussi qui ressemblent beaucoup à ça mais qui n'ont pas de sporée rose.
Je vais pas m'empoisonner.
Et ça peut être très vite toxique.
Ouais, très toxique.
C'est douteux ?
Clitopile, c'est bon, mais bon.
Sans plus.
Sans plus.
Bon, ouais. Allez, on continue les
cèpes. Il faut le prendre hein, si vous voulez. Et il a une très bonne odeur de farine. Un pied de mouton, hein?
Ouais. Dirait, et ça, c'est un petit cèpe, je l'ai écrasé, je suis pas vu. Ah, ben.
Non, pas du tout.
Ah, ben, heureusement que j'ai pas mis dans le sac. Alors.
C'est un gonfide. C'est un gonfide, d'ailleurs, tu le vois, parce que là, tu vois, c'est visqueux.
Ah, ouais, d'accord.
C'est visqueux, et puis là, tu vois, t'as un voile qui protège les lames. Et si tu enlèves ça, ce voile qui est difficile à enlever, normalement, tu dois avoir des lames dessous, mais là, elles sont pas très bien formées.
Ah, ouais, d'accord. Ouais,
tu les vois là.
Ok.
D'accord, et puis t'as un couteau là ?
Ouais.
Quand tu le coupes comme ça verticalement, tu as la base du pied jaune.
Ah ouais.
Très jaune ça comme va. Ça. Ça, c'est pas qu'il est pourri, hein, il est très frais, ouais, au contraire. C'est... Et c'est le gonfide, Gonfidus glutinosus. C'est un bon comestible que personne ne connaît et ça, c'est très bon. Ça.
Ah mais ça ?
Le gonfide.
Vous avez vu la prochaine fois, je le garderai.
Alors ça, ça pousse en touffe ? Ça pousse en touffe sur le bois mort, c'est un nipholome et ça c'est toxique, ça on ramasse pas.
Il y a beaucoup d'accidents chaque année avec la cueillette de champignons.
Il faudrait voir les statistiques des 130 antipoisons, mais oui, il y a toujours beaucoup d'accidents qui sont dus à la méconnaissance des gens qui croient connaître ou qui s'engagent dans la forêt avec un bouquin en se disant tiens, avec ça c'est bon, je vais y reconnaître et qui se plantent.
Ça se fait de moins en moins en pharmacie, le contrôle des cueillettes.
Ça se fait de moins en moins. Bah, après, ça c'est à l'initiative des gens. Hein. C'est les gens qui doivent faire l'effort d'aller, quand ils ont un doute, voir le pharmacien.
Et ils sont encore formés, les pharmaciens ?
Le problème, c'est que la formation en mycologie des pharmaciens, ça se réduit à quelques heures de cours dans leur cursus. Donc c'est quasiment rien. Alors ils sont capables de reconnaître les comestibles. Pour vous dire ça, ça se mange. Et puis si ça ne rentre pas dans quelques espèces qu'ils connaissent, ils vous diront non, on ne connaît pas, donc ne mangez pas. Ou ils feront appel à un mycologue. De temps en temps, moi, les pharmaciens m'appellent pour que j'aille voir ce que les gens leur amènent. Et l'idéal, c'est de se rapprocher d'une société de mycologie, association de mycologie. Ouais. Oui, il y a toujours des empoisonnements dus aux amanites phalloïdes, par exemple. Mmh. Les gens qui ramassent des rosées des prés, qui font pas attention, qui ramassent un chapeau d'amanite phalloïde au passage. Tu vois. Ah, oula.
Eh merde. Ça va?
Ça va, ça. Donc quand on marche en forêt, toujours faire attention, on met les pieds. Chez moi, dans les Alpes, par exemple, les gens ramassent des petits gris. Mmh. Petit gris, c'est le tricolone terreux, c'est un petit champignon gris qu'on trouve partout, qui est très très bon. On en fait des conserves aussi, au vinaigre. Et dans les Alpes, il y a le tricoloma pardinum, qui ressemble à un petit gris, mais qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus massif, qui n'a pas tout à fait le même aspect, et qui lui est extrêmement toxique. Mmh. Et il envoie chaque année des dizaines de personnes à l'hôpital.
Là, la météo qu'on a eue ces dernières semaines, elle est propice du coup à la pousse de champignons?
Non.
Non?
Non, non. Il y a ces petites pluies là qui n'ont pas mouillé le sol en profondeur. Elle a surtout profité, ça profite. Il y a tous les champignons qui déboîtent, qui dévorent le bois mort. Ils sont les premiers à sortir. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu, hein, l'ifolome, c'est un ça profite, etc. Le phomitopsis qu'il y avait sur le tronc aussi. Donc c'est eux qui en profitent. Donc j'ai dû trouver, je sais pas, peut-être une trentaine d'espèces. Avec les dernières pluies, et j'ai pas trouvé plus.
Et avec le froid qui arrive de plus en plus, du coup la nuit là, ça, sans les pluies, ça va pas être une année à champignons quoi.
Ça non, ça veut rien dire ça. Il n'y a pas eu de gros gel, donc c'est pas embêtant. Au contraire, le choc thermique peut provoquer la sortie des champignons.
Ok.
Surtout si les pluies arrivent la semaine prochaine, comme il s'est annoncé, le week-end prochain, ça risque de faire de grosses poussées, au contraire. Une russule, encore. Mais une russule qui est liée, eh ben oui, au boulot, à l'arbre qui est devant nous, au feuillu, là. Ouais, c'est paxil enroulé, la marge est enroulée. D'accord. Avec des lames décurrentes qui descendent un peu sur le pied. C'est un champignon qui est très toxique, ça. Paxil enroulé.
Il a pas l'air.
Ben, il a pas l'air, mais bon, vaut mieux pas le tenter. Tu sais, l'amanite phalloïde, c'est un très joli champignon. Hein. Ouais. Très joli et qui a très bon goût. Mais qui est mortel.
C'est connu, je crois qu'il disait tous les champignons sont comestibles, certains ne le sont qu'une seule fois.
Mais même sur les espèces comestibles, il faut se méfier. Hein. Parce que déjà, il faut pas trop manger, faut pas en donner aux enfants. Parce que le système digestif des enfants est en formation, donc ils n'ont pas forcément toutes les enzymes qui permettent de dégrader les sucres complexes qu'on peut trouver dans les champignons, pour créer des gastro, etc. Même sur des espèces que l'on considère comestibles, qui sont mangées depuis des lustres et des lustres, on découvre des choses. Par exemple, il y a quelques années, on a découvert que le canari, le tricolome équestre, un tricolome de couleur jaune, moi j'en ai mangé, hein, j'en cherchais avec mon grand-père quand j'étais petit. On a découvert qu'il était potentiellement mortel.
À dose importante.
Non, non, il a tué des gens dans le sud-ouest de la France, il a tué des gens. Alors je me suis demandé exactement pourquoi. Donc maintenant il est interdit à la cueillette et à la vente. De la même manière, on mange de la gyromitre depuis des lustres et des lustres. Et même ici, hein, la gyromitre est très ramassée. Alors qu'on sait que c'est un champignon qui peut tuer, qui est mortel.
La gyromite, c'est quoi, c'est quoi?
La gyromite, c'est un ascomycète qui a un pied, puis un chapeau marron, un peu cérébriforme.
Alors cérébriforme, tu veux dire
en forme de cerveau.
Ah, d'accord.
Je vais te montrer une photo, ce sera plus parlant. Ça, c'est très, très ramassé dans la région, ces gyromites, au printemps.
Oui.
Mais on a découvert que ça pouvait tuer.
Alors, donc il suffit quelqu'un en mange une seule fois pour crever, alors que d'autres...
Tout dépend de ton système digestif et de ton corps.
Là, ce serait une réaction allergique ou de...
Non, en fait, ça contient de la gyromitrine, qui avec la cuisson et la digestion va se transformer en substances qui sont extrêmement dangereuses, qu'a priori le corps n'élimine pas. Donc tu les accumules. Et tout dépend de ton seuil de tolérance. Si ton seuil de tolérance est très bas, tu en manges une fois, tu meurs. Et il y en a qui vont en manger toute leur vie, qui ne vont pas en mourir. C'est très aléatoire. Ouais. Et les gyromites, selon les endroits où tu les ramasses, n'ont pas la même quantité de gyromitrine. Enfin bon, c'est,
oui.
C'est assez obscur, mais on sait que ce champignon peut tuer.
Ouais. Donc,
on a même évoqué le fait que dans certaines communes où il y avait un taux très très élevé, anormalement élevé, de maladie de Charcot, la consommation de ce champignon serait à l'origine de cette maladie. Je ne sais pas où en sont les recherches actuellement dans ce domaine, mais ça, on en a parlé, quoi. Donc la gyromitrine est considérée comme un champignon mortel maintenant. Les associations écologiques, on déconseille la cueillette et la consommation de ce champignon. Ça sent la farine. Après, il faudrait faire une sporée pour voir si la sporée est blanche ou rose. A priori, elle devrait être rose, vu les reflets. Donc c'est sans doute un clitopile. Clitopilus prunulus ou cystidiosus, il y a plusieurs espèces. Là, il faut faire la microscopie pour identifier l'espèce.
On n'a pas le matériel.
On n'a pas le matériel d'ici. Donc il faut se méfier. Il faut prendre les exemplaires qui sont adultes, qui sont bien développés, parce qu'on voit bien la couleur des lames.
D'accord.
Et on peut dire si la sporée est rose ou pas. Le risque, c'est de confondre ça avec un clitocybe. Clitocybe blanc, qui sont, eux, potentiellement très toxiques.
Très donc, bien. Dans le doute, donc, on ne prend pas.
On ne prend pas. Donc, sauf si... Ah.
Sauf si étude de microscopie d'art.
Voilà. Ok.
S'il faut étudier chaque champignon après la récolte.
Ben on arrive avec nos... C'est des microscopes, c'est ça. C'est par microscope.
Et ça, les sacs en plastique ou en tissu, c'est pas du tout bon lors des cueillettes de champignons. Monsieur va t'expliquer pourquoi.
Oui, bah parce qu'il y a des champignons microscopiques unicellulaires qui se développent très facilement dans les milieux renfermés comme ça.
Ouais.
Si vous baladez une heure ou deux, le temps que vous rentriez à la maison, ils se sont développés, ils libèrent des toxines sur les champignons que vous allez manger et vous allez vous empoisonner comme ça. Donc il faut que le champignon il reste dans un panier, il faut qu'il soit aéré pour limiter la propagation de ce genre de champignons unicellulaires.
D'accord. Allez, on jette le sac dans la nature.
Alors le sac, peut-être pas, mais le reste, oui.
Moi, j'ai jeté le reste.
Alors ça, c'est pas un sac. Hein. Ah. Ça, c'est une russule, russula mustelina. Ah oui, avec les lames. Oui. Donc ça, faut jeter, hein. Ça, c'est pas comestible.
D'accord.
Ça, vous pouvez le manger, mais vous allez vite le recracher, en fait. Ça vous gâcherait le goût des cèpes.
Ah oui, avec des lames dessous. Hein.
J'ai une boucle. C'est un pinophilus, ça, ou...
Non, c'est pas un pinophilus, c'est un édulis, tout simple. Ok.
C'est voilà. Pas une russule. Hein.
Ah non, c'est pas une russule. Mais... Vous avez la marge blanche, là.
Ouais,
la marge blanche, le... qui est typique de l'édulis. Ouais. Et puis le pied n'est pas suffisamment foncé pour en faire un pinophilus.
Ouais, c'est qu'ils sont plus jaunes, les pinophilus.
Ils sont plus foncés,
plus
marron.
Comme les bronzés.
Ah ça c'est plus grand chose. C'est un édulis aussi.
Ouais.
C'est un édulis, mais vous avez sur le pied un développement
parasite.
D'un parasite et sur le chapeau ici aussi. Donc ça moi je vous déconseille de le manger.
Ah oui.
Et celui-là avec les lamelles. Là,
alors ça c'est une paxille enroulée. Paxillus involtus qui a la marge qui est enroulée sur elle-même, d'où le nom de paxille enroulée. Et c'est un champignon extrêmement toxique.
D'accord.
Bon appétit.
Je l'avais fait pour ma femme. Donc.
Ça, c'est bien un cèpe. Non, c'est pas un cèpe, ça, c'est un lexinum. Lexinum orangicum.
Hein? Boleux
orangé, ouais.
Alors la russule, il y en a qui se mangent.
Il y en a qui se mangent, mais pas celle-là. Mais
celle-là, non. Et celle-là, c'est la russula mustelina, la russule belette, qu'on retrouve beaucoup ici sous les épicéas. On la reconnaît parce qu'elle a un chapeau marron couleur fauve comme ça et qu'elle est très dure. Alors ça, il ne faut pas se tromper avec ce champignon-là, parce que les lames sont décurrentes, c'est-à-dire qu'elles descendent le long du pied. C'est la propriété des clitocybes. Et chez les clitocybes blancs, la plupart sont extrêmement dangereuses, toxiques. Sauf que les clitocybes ont une sporée blanche. Et là, on voit la couleur des lames que la sporée sera plutôt rose. Du coup, c'est pas un clitocybe, c'est un clitopile.
D'accord.
Clitopile. Il y a plusieurs espèces. Il y a Clitopilus prunulus, il y a Cystidiosus.
Là, c'est une affaire de microscopie, après, pour déterminer l'espèce. Dans tous les cas, ça, c'est comestible. Mais il ne faut pas se planter avec les cuites aussi, parce qu'on finit à l'hôpital.
Sinon, il vaut mieux pas.
Donc, il vaut mieux pas.
Et alors, ça qui pousse en un petit bouquet, c'est quoi ?
Alors, ça, ça pousse en touffe.
En touffe, oui.
Ouais, c'est exactement pareil. Ça pousse en touffe. C'est très commun ici, sur les souches d'épicéa. Ça a donné son nom à ce champignon, le...
C'est peut-être ça, alors.
L'ipholum en touffe, c'est pareil. Tout ça, c'est pareil à différents stades de développement. L'ipholum en touffe et l'ipholum en touffe est toxique. Là, il y a plusieurs espèces. Il y a des espèces. Alors, il y a le l'ipholoma capnoides. Il y en a un autre. Alors, celui-là, il a les lames plutôt grises. Ça serait plutôt capnoides. Il y a fascicularia. Enfin, il y a plein d'espèces. Ouais.
C'est pas grave. Il ira pas.
Non, dans tous les cas, c'est toxique. Alors là, on rentre dans les. Dans la famille des cortinaires. Les cortinaires ont des lames qui sont, quand le champignon est jeune, recouvert d'un voile araméen, comme des toiles d'araignée, des fils très denses, qui fait qu'on ne voit pas les lames. Après, quand le chapeau s'ouvre, ce voile, cette cortine exactement, disparaît, elle se déchire, elle disparaît. Il en reste des traces souvent sur le bord du chapeau, on le voit ici, là. Et on le voit sur le pied. Cette cortine, elle est blanche ou légèrement colorée, ça dépend des espèces. Et elle se teinte de roux parce que les spores, la sporée de ce champignon est de couleur rousse, rouille. Et du coup, là, ce que vous voyez en roux, ce sont les spores de ce champignon. Et les cortinaires sont dans l'ensemble tous toxiques, voire pour certains extrêmement dangereux.
Par contre, le cortinaire montagnard, on l'appelle le tueur de belle-mère, parce que vous le mangez et vous pouvez avoir des symptômes que 3 semaines après, vous ne vous rappelez pas du tout que vous avez mangé. Et ça, c'est mortel à tous les coups.
Cette belle anecdote signe la fin du reportage en espérant que cette balade vous ait donné envie d'aller cueillir des champignons. Dans tous les cas, restez prudents sur ce que vous cueillez et faites gaffe où vous mettez les pieds.
Et voilà, c'est la fin de cette matinale. Merci à toutes et tous de nous suivre. On se retrouve mercredi. Il vous reste à vous souhaiter une excellente journée. Restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. À mercredi. Ciao.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.